Alors, Jean-Marie a dit que j'étais physico-chimiste. Alors, qu'est-ce qu'un physico-chimiste? La définition est très... La définition, c'est les chimistes utilisent des substances propres et des méthodes sales. Les physiciens utilisent des substances sales et des méthodes propres. Et les physico-chimistes, le chimiste-physicien, je vous laisse deviner. Et donc, justement, pour éviter ce dilemme, je me suis fait ce qu'on appelle en anglais computational chemist. C'est pas vraiment chimiste théoricien, c'est quelqu'un qui fait de la théorie, mais avec l'aide de l'ordinateur, avec ce nouvel outil, je vais dire d'abord outil, avec ce nouvel outil qu'est l'ordinateur. Et donc, computational chemistry, en français on dit chimie numérique, mais c'est pas vraiment ça. Je dirais ce travail quotidien avec l'ordinateur, comme outil, comme partenaire, comme... C'est ça qui m'a donc amené à réfléchir un peu à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et le résultat, je vous donne les conclusions dès le début, comme ça ceux qui veulent dormir peuvent le faire. La conclusion sera que l'ordinateur est vraiment, j'en suis convaincu, même s'il n'y a que 50 ans que l'ordinateur existe, que l'apparition de l'ordinateur sera une césure extraordinaire dans la pensée scientifique, comparable qu'à une seule autre dont nous parlerons au début. Alors je vous ai mis ici l'œil menaçant de l'ordinateur HAL 9000 dans le fameux film de Stanley Kubrick. Je pense que tout le monde qui a vu ce film se rappelle de l'atmosphère menaçante qui se dégage de cet ordinateur. Alors, les ordinateurs ne sont pas toujours menaçants, mais néanmoins, il ne faut pas sous-estimer les conséquences qu'ils auront sur nos modes de pensée. Bon, et vous voyez, les ordinateurs, c'est une chose aussi, ça ne marche pas toujours, je ne sais jamais où cliquer. Donc, voilà ce que je vais vous raconter. Nous allons commencer par une lettre qu'un certain Enea Silvio Piccolomini a écrite il y a à peu près 500 ans. Et puis, nous passerons assez rapidement, très très rapidement, sur une petite histoire de l'évolution de l'ordinateur. Et ça nous amènera à réfléchir à une question d'épistémologie qui est: que veut dire comprendre scientifiquement? Quand peut-on dire qu'on a compris un phénomène, une observation scientifique, une observation qu'on a faite dans la nature, quand l'a-t-on compris? Bon, et alors il y aura quelques mots-clés qui viennent de l'informatique, des exemples, et j'espère vous montrer, c'est un point important, que l'ordinateur, certes, changera beaucoup de choses, mais qu'il a des limites inhérentes. On voit aujourd'hui très très simplement qu'il y a des choses qui ne seront jamais faisables avec un ordinateur. Et puis, après un petit résumé, eh bien, je viendrai, Jean-Marie l'a dit, à une vision du monde chinois. Parce que les Chinois ont fait de la science bien avant l'Occident. Et ils l'ont fait différemment. Et j'essaierai de montrer comment l'apparition de l'ordinateur nous ramène peut-être vers des modes de pensée qui ont été ceux de la Chine classique. Donc voilà le fameux Enea Silvio Piccolomini, qui est plus tard devenu pape, et qui écrit à son copain, l'an dernier à la foire du livre de Francfort, qui existe encore aujourd'hui, si vous voulez y aller, hein, cette année c'est du 15 au 19 octobre, et elle existait déjà depuis longtemps, du vivant d'Enea Silvio, et écrit donc l'an dernier à la foire du livre de Francfort: je n'ai pas vu de Bible complète, mais un certain nombre de cahiers d'une écriture très nette et très correcte, nulle part fautive, que ta dignité aurait lu sans peine et sans lunettes, je sais apprécier. J'ai appris que 158 volumes étaient finis, d'autres assurent qu'il s'agit de 180. J'aurais sans doute acheté un volume, ce que je crains, c'est que ça ne soit pas possible, parce que, dit-on, avant que les volumes fussent finis, il y avait des acheteurs tout prêts. Alors qu'est-ce qu'il avait vu, Enea Silvio? Ben voilà ce qu'il avait vu. Il avait vu les cahiers de la fameuse Bible à 42 lignes, que vous pouvez voir à la British Library, à la Bibliothèque nationale à Mayence. Je suis copropriétaire d'une ayant donné un jour 10 Deutschmark pour l'acquisition du deuxième volume. Il en existe un nombre remarquable. Sur les à peu près 180 que Gutenberg a fait, il y en a une petite centaine qui subsiste encore. Et voilà donc bien sûr l'homme étonnant vu à Francfort, Johannes Gänsfleisch zum Laden. Il ne s'appelait pas du tout Gutenberg, il s'appelait Gänsfleisch zum Laden, et Gutenberg c'était la maison où il habitait. Alors, Gutenberg, on le connaît surtout par ses procès. C'était un homme probablement pas commode du tout. Et il avait, bien sûr, et c'est ça qui est important, calculé son affaire, ou plutôt son financier, Johannes Fust, qui était vraiment un venture capitalist. On nous parle des venture capitalists californiens. À l'époque, ils étaient chez nous, les venture capitalists. Johannes Fust, il a vraiment investi en Gutenberg, et ça s'est terminé comme ça devait se terminer, en procès. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient calculé, ces gens, à peu près? Ils avaient dit, ben, si je fais un livre à la main, ça va me faire qu'un copiste, il fait 2 à 3 pages par jour, il y a tant de pages, etc., etc. Donc, il y a à peu près 3000 mois de travail pour faire l'édition. Si je fais l'imprimerie, on estime que Gutenberg avait moins de 20 ouvriers dans son atelier, que l'on reconstitue avec assez de précision. Il a mis, et ça on peut l'estimer, vu qu'en 1554 les volumes étaient en vente, on sait qu'en 1550-51 il avait encore rien, donc on peut estimer le temps qu'il a mis. Et donc à peu près, ordre de grandeur, 500 mois pour toute l'édition. On va dire que les frais fixes étaient les mêmes, pour estimer, que les copistes et ouvriers, un ouvrier de l'imprimerie c'était un ouvrier très bien payé, high-tech de l'époque, mais bon, les scribes, les moines qui écrivaient, ils étaient bien payés aussi. Donc, grosso modo, l'avantage financier, l'avantage de prix, est un facteur, je calculais 6 ici, mettons de l'ordre de 10. Donc, d'un point de vue coût, l'impression, c'est un facteur entre 10 et 100. Un avantage de coût entre 10 et 100. Bon, n'importe quel chef d'entreprise vous dira qu'un avantage, si vous produisez quelque chose à un dixième du prix de votre concurrent, vous allez faire des affaires. Et ça, il l'avait compris à l'époque aussi. Et bien sûr, quand quelque chose est bon marché, je vous dis ça assez en détail parce qu'on va voir exactement la même chose avec l'ordinateur, quand quelque chose est bon marché, quand le prix baisse, eh bien les gens s'en servent. Ça crée son marché, hein, quelque chose qui est moins cher, crée son propre marché, et ce marché qui s'est créé, eh bien, c'est bien sûr la révolution gutenbergienne, c'est le fait que le stockage et la mise à disposition de l'information devient tout d'un coup abordable pour beaucoup de gens, et j'ai listé ici, bon, quelques faits marquants, hein, 50 ans après, on a Luther, 150-200 ans après, on a le début des sciences, Galilée, 300 ans après, quand même 300 ans après, on a une époque qui s'appelle d'après un livre, hein, on dit l'âge de l'encyclopédie, c'est un livre. Bon, encore 100 ans après, c'est l'explosion des sciences, que l'on, bon, j'en dirais pas grand chose, la révolution industrielle, aussi le décollage de l'Occident par rapport à l'Orient, on en reparlera, et vers 1950, apparaît, eh bien, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'ordinateur électrique. Je dis bien électrique. Et en 1950, vous auriez mis un ordinateur dans cette pièce qui avait même pas les performances de votre calculette à 10 euros au supermarché. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que ça a quand même mis 300 ans. Hein, la révolution Granger, là que j'ai appelé Granger, ça a mis 300 ans. Bon, venons-en à l'ordinateur. Alors, quelles sont les origines de l'ordinateur? On peut se disputer, mais enfin, mettons que Pascal a peut-être été le premier à réaliser une machine mécanique, pas électrique, mécanique, qui pouvait faire des opérations. On fait ça avec des roues dentées, enfin comme une boîte de vitesse, etc. Alors, ce qui caractérise un ordinateur, c'est le nombre d'opérations qu'il peut faire par seconde. On appelle ça flops, pour un certain type d'opération, je ne rentre pas dans les détails, floating point operation per second. Bon, il y a une blague américaine qui dit, en anglais, some people still think that flops are something to be avoided, parce qu'un flop, c'est un four au théâtre. Donc là, c'est pas un four, c'est floating. Donc, grosso modo, on va dire flops pour nombre d'opérations d'un certain type. Donc la machine de Pascal, on ne sait pas vraiment combien d'opérations elle pouvait faire, et certainement, elle ne pouvait rien stocker. Elle n'avait pas de stockage, c'était des rouages sur des opérations. Bon, à peu près 150 ans plus tard, en Angleterre, il y a eu Charles Babbage, qui lui avait déjà beaucoup plus compris les bases de ce qui pourrait être une machine à calcul. Et en fait, le mot computer, c'est à lui qu'on le doit. Donc lui, il entrevoyait déjà une machine qui pourrait faire une suite d'opérations, pas une seule, qui pourrait faire une suite d'opérations, et peut-être même quelque chose que l'on pourrait programmer. Alors là, on passe directement au début du siècle dernier, les deux grandes têtes de tout ce qui est conceptuel dans l'ordinateur, qui ont vraiment compris quelles étaient ces machines, c'est Janosch ou John von Neumann, qui, comme son nom ne l'indique pas, était hongrois, et Alan Turing, que tous les étudiants en informatique étudient encore aujourd'hui. Et en fait, tous nos ordinateurs sont des machines de Turing. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de nouveau important, les concepts étaient là avant les réalisations. Les réalisations, elles se sont faites, et ça s'est pas vraiment su à l'époque, essentiellement à Berlin en temps de guerre par un gars qui s'appelait Konrad Zuse. Quand j'étais étudiant, il existait encore des ordinateurs de marque Zuse. Et c'est lui qui a vraiment réalisé physiquement, composantes électroniques, tubes à vide et ce qu'on avait à l'époque, une machine programmable. Mais c'était vraiment des choses complètement expérimentales. Enfin, il y en avait une à Berlin qui marchait de temps en temps, si l'inventeur était à côté, il la caressait et disait abracadabra, et ça marchait. Sinon. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, ça fait longtemps, mais quand même peut-être pas si longtemps que ça, j'ai encore utilisé une machine, comme vous la voyez là en bas, qui était finalement une machine de Pascal améliorée, qui était un truc mécanique. Hein, on faisait multiplication, donc on moulinait, et puis il sortait un chiffre, on notait sur du papier, et puis on remoulinait. Puis il y a eu le grand progrès, le moulinet a été remplacé par un moteur électrique, donc ça allait un peu plus vite. Mais c'était pas un ordinateur, hein, c'était une machine à calculer mécanique qui faisait, je sais pas quoi, moi, peut-être... 0,2 opérations par seconde, il fallait 10 secondes pour que sorte un chiffre ou quelque chose comme ça. Mais là, ça a décollé, c'est allé très vite. Déjà 1976, on avait ce qu'on appelle des superordinateurs. Et je vous ai mis ici en image le fameux Cray 1, qui a été vraiment la première machine digne de ce nom, qui coûtait 9 millions de dollars. Qui a très vite baissé son prix, donc les premiers coûtaient 9 millions de dollars, les derniers ont probablement été bradés à 3 millions de dollars, qui faisait quelques 100 mégaflops, donc déjà quelques millions d'opérations par seconde, et qui stockait quelques millions de bytes, bytes étant, mettons, la quantité de mémoire qui vous permet de stocker un chiffre ou une lettre. On va pas aller plus dans les détails. Ça, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, le PC que vous achetez chez votre informaticien favori, il est au moins 10 fois, sinon 100 fois plus puissant en puissance de calcul que le superordinateur d'il y a 30 ans. Et bon, et vous savez que la capacité de stockage des disques, vous en avez acheté un à 3 bois, c'est déjà obsolète. Ça augmente à une vitesse fantastique. L'unité de stockage, maintenant, c'est le gigabyte. Giga, 10 à la 9e puissance. Et le fait que, eh bien, les coûts se soient abaissés si rapidement, on le doit beaucoup à ce monsieur, que monsieur Bill Gates, que tout le monde tient pour un grand informaticien, ce qu'il n'est pas, mais qui est certainement un des plus grands génies commerciaux parce qu'il a entrevu qu'en rendant l'ordinateur, en faisant que l'ordinateur soit quelque chose d'accessible pour tout le monde, eh bien, de nouveau, l'avantage des coûts allait entraîner une évolution Et c'est de cette évolution que nous profitons. Si M. Bill Gates et ses collègues d'Intel et compagnie n'avaient pas été là, l'évolution n'aurait pas été si rapide. Bon, un jour ou l'autre, quelqu'un aurait eu l'idée, mais il faut rappeler que Microsoft, donc la compagnie de M. Gates, a repris des concepts dont IBM ne voulait pas. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, on retient que, et bien sûr, 30 ans, sur les 30 dernières années, le nombre d'opérations à un coût donné, donc vous mettez 500 euros, 1000 euros, quoi, vous faites à l'heure actuelle au moins 40 000 opérations de plus qu'il y a 30 ans, et vous stockez au moins 5 000 fois plus de données. Pour le même prix. Rappelez-vous, Gutenberg, c'était 10 à 100. Donc, vous voyez, Et puis une troisième chose dont je n'ai pas parlé, dont je parlerai peu aujourd'hui, c'est que non seulement la capacité unitaire de cette petite boîte a augmenté, mais elles sont toutes reliées entre elles à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu cette notion de réseau, qui est aussi quelque chose d'entièrement neuf, et dont je ne parlerai pas. Mais ce que nous appelons aujourd'hui Internet, hein, ça a été inventé, alors... La petite histoire dit que c'est le 29 octobre 1969, à 22h30, que la première transmission utilisant le protocole que nous utilisons encore aujourd'hui a marché. Donc, à retenir, hein, une augmentation, je pense que jamais rien dans l'histoire humaine n'a augmenté, n'a explosé à cette vitesse. Hein, on est dans des facteurs de plusieurs milliers, des choses qui donc sont mille fois moins chères qu'il y a 10 ans, ou pour le même prix, vous avez 1000 fois, 10 000 fois, peut-être même 100 000 fois les performances. Et donc, rien que ce diagnostic, on se dit que bien, si ça ne portait pas à conséquence, ça serait quand même fort étonnant. Alors, bah, les conséquences, on les connaît. Hein. J'ai fait ici une petite liste. Hein. Vous avez le traitement de l'information pure. Hein. Maintenant, vous voulez savoir quelque chose, vous allez voir Google, vous allez voir Wikipédia. Vous voulez traduire en allemand, en anglais, en chinois, en je sais pas quoi, vous demandez à Léo. Les ingénieurs, ils font tout devant leur ordinateur. Il n'y a plus un seul ingénieur qui calcule quelque chose sur un bout de papier. La règle à calcul, nos étudiants ne savent même pas ce que c'est. L'étape de logarithme, je passe. Vos impôts, vous recevez votre fiche d'impôt pré-remplie, c'est pas le rond de cuir qui la remplit. Hein. Les GSM, c'est bourré de processeurs. GPS, pareil. Enfin, j'en passe. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'était les sciences. Donc, les sciences dans tout cela. Alors, je voudrais distinguer trois domaines qui sont pas vraiment disjoints, enfin, qui se chevauchent, il y a beaucoup de recouvrements, mais enfin, quand même. Donc, on a d'abord l'ordinateur objet de la science, donc des gens qui étudient l'ordinateur en tant qu'objet. Des mathématiciens, des gens qui font de l'algorithmique, des ingénieurs électriciens, etc. C'est ce qu'on appelle informatique ou de façon plus générale, computer science. Ensuite, et c'est ça qui nous intéressera, l'ordinateur outil de la science. Donc, on dit, il y a l'ordinateur, on sait s'en servir, on a grosso modo le permis de conduire pour l'ordinateur, et on va faire d'autres sciences avec. Alors ça peut aller de la physique et la chimie, qui est ce qui m'intéresse, à la géologie, la biologie, la sociologie, les lettres. Hugo m'a fait remarquer qu'il ne fallait pas oublier les lettres qui se servent aussi. Enfin, je crois qu'il n'y a aucune science maintenant qui ne se serve pas de l'ordinateur. Pour en venir à la réforme des universités, il y a un professeur de théologie de l'université de Mayence qui vient de faire en Allemagne une lettre incendiaire contre les réformes universitaires sur le web avec blog et tout, un professeur de théologie. Donc, tout le monde s'en sert. Et puis, alors, il y a des domaines qui sont à la limite des deux, hein, où donc l'ordinateur est outil et objet de la science. Donc, pour nous, pour ce soir, pour encadrer un peu la chose, je vais surtout considérer l'ordinateur comme outil de la science. Alors, un petit peu d'épistémologie maintenant. Parce que, eh bien, tout aussi bien les étudiants que le speaker de la télévision, si vous faites un peu attention, vous disent l'ordinateur a dit. L'ordinateur dit ceci, l'ordinateur dit cela. Alors, ouais. Et puis une étudiante, il y a un certain nombre d'années, m'a sorti le classique dont je me resserre toujours, « Je ne veux pas comprendre, je veux apprendre ». Verbatim, hein, j'invente pas. Je la vois encore, un groupe de TD, je leur disais, écoutez, ne copiez pas tout, on vous l'a déjà dit 25 fois, essayez de comprendre. Elle m'a dit, j'ai dû pas avoir l'air très malin quand elle m'a dit ça. Mais bon, c'est une attitude et on va voir un peu sur quoi se base cette attitude. Alors là, j'en reviens à l'exposé que nous a fait Pierre Cambronne il y a 2 mois à peu près. Il nous avait expliqué que dans les mythes fondateurs de l'Europe, si je l'ai bien compris, peut-être que je me ferai ramasser parce que je ne l'ai pas bien compris, on distinguait 2 niveaux. Enfin, on avait toujours tendance à penser que le logos, donc un niveau abstrait, d'abstraction, serait supérieur, serait intrinsèquement supérieur, serait d'une qualité supérieure à un niveau plus descriptif. Il a dit image, j'avais noté image à l'époque. Donc quelque chose de descriptif, d'intuitif, peut-être de holistique. Et ça, c'est un débat, c'est un vrai débat qui a lieu, qui a toujours eu lieu. Hein. Galilée, lui, pensait que science et mathématiques étaient équivalents. Pour Galilée, il n'y avait pas de science hors mathématiques. Ou, à dire autrement, que ce qui pouvait être exprimé en mathématiques était scientifique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la Deutsche Physik, donc la physique l'école de physique allemande qui a compris des scientifiques très grands, des prix Nobel, qui finalement s'est fait accaparer par le nazisme parce qu'ils se sont braqués contre Einstein et ses théories, qu'on a dit ils sont juifs, etc. C'était pas au début tout à fait aussi idiot ce qu'ils disaient les gens. Ce qu'ils disaient, c'est qu'il existe une science qui n'est pas mathématique, qui est basé sur ce qu'on appelle Schau, ou Anschauung, même origine que le mot anglais Schau, mais pas du tout le même sens. Schau, c'est la vision, c'est ce que je vois. Et bon, même en France, ce débat a eu lieu. Hein. Voltaire, lui, pensait que la science et les mathématiques, ça faisait deux. Et il a insulté Descartes, vous avez cette toile d'époque, pour ne pas dire de haute époque, où on voit Voltaire jetant ses foudres contre Descartes, ça c'est quelque chose que j'aime citer aux étudiants aussi assez souvent, hein. Il disait, Voltaire était peut-être le plus grand géomètre de son siècle, mais la géométrie laisse l'esprit comme elle le trouve. Autrement dit, les mathématiques n'ont jamais appris rien à personne. Alors, donc, comprendre la science. Est-ce que comprendre la science, c'est équivalent à faire des mathématiques, écrire une formule, et une fois que la formule est écrite, la messe est dite? Ou bien est-ce qu'il y a plus? Ou bien est-ce qu'il y a des alternatives aux mathématiques? Et le physicien Heinrich Hertz, au XIXe siècle, avait pensé ce problème, et lui, grosso modo, sa solution était de dire, eh bien, je fais une expérience physique, chimique, ce que vous voulez. Donc j'ai un système, je le perturbe, je l'irradie, je tape dessus, je fais n'importe quoi, et ce système va me répondre. Par exemple, si vous l'irradiez, eh bien il produira un spectre à la sortie. Si votre expérience en médecine c'est un patient que vous mettez dans un scanner, ben vous envoyez du rayonnement électromagnétique et vous obtenez une image radio, l'absorption, une image, etc., etc. Et Hertz avait dit, eh bien, j'ai compris ce qui se passe dans cette boîte-là, donc j'ai compris mon expérience, si je suis capable de construire une machine mécanique analogue. Donc si je suis capable de construire un système basé sur les lois de la nature que je connais, et on pensait à l'époque que les lois de la mécanique classique étaient connues. En fait, les lois sont connues, mais il y a des choses qui ne sont pas connues. Donc, lui pensait, si je puis concevoir une machine mécanique, ou éventuellement électrique, quand on a compris les lois de l'électricité suffisamment bien, qui ait un comportement analogue à mon expérience, alors j'ai compris. Parce que là-dedans, je mets les lois de la nature. Alors est venu, ça je vais passer très très brièvement dessus, mais est venu au début des années 20 du siècle passé, la mécanique quantique, où il existe ce qu'on appelle une relation d'incertitude. Et sans entrer dans les détails, cette relation d'incertitude est quelque chose qui est pas réalisable, qui est démontrablement pas réalisable par une machine mécanique. Vous ne pouvez pas construire de machine mécanique qui ait le comportement qui est celui que l'on observe sur des particules, je dirais, de dimension atomique ou subatomique, par exemple des électrons. C'est assez facile à expliquer pourquoi c'est comme ça, je n'y rentrerai pas dedans. Ce qui est important, c'est qu'ici, nous voyons déjà que l'explication « j'ai compris quelque chose quand je peux construire une machine mécanique » n'est pas forcément toujours la bonne. Par contre, on a des systèmes d'équations, par exemple les fameuses équations de Schrödinger ou des équations équivalentes, qui incorporent ce principe. Donc on peut écrire des équations qui incorporent ce principe. Le problème, c'est qu'on peut écrire les équations, mais on ne peut pas les résoudre. Alors aujourd'hui, on pourrait dire, un ordinateur, c'est quoi ? Un ordinateur, c'est une machine que je peux programmer. Il y a la notion de programme. Je vais tout de suite dire un peu plus en détail ce qu'est un programme. Et est-ce que je pourrais pas tout simplement remplacer la machine mécanique de Hertz par un programme, on dit un algorithme ou une suite d'instructions de l'ordinateur, que je fais exécuter par l'ordinateur ? Au lieu d'avoir des roues dentées qui ont des positions bien définies les unes par rapport aux autres, j'ai une suite d'instructions qui se passent sur un ordinateur. Et cette suite d'instructions, on les écrit, c'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle les langages de programmation. Une suite d'instructions, c'est par exemple récupérer une donnée en mémoire, récupérer une autre, faire des opérations, les additionner, les multiplier, les diviser, les comparer, prendre des décisions, c'est-à-dire si le résultat de telle opération est supérieur au résultat de telle autre opération, alors fais ceci, cela. C'est-à-dire on peut faire de la logique avec des suites du style si ceci, alors cela, ce sont les opérations de logique. Donc l'ordinateur, il peut stocker des données, certes, on l'a vu, et il peut nous aider à les récupérer, il peut faire des traitements mathématiques, les additionner, etc. Il peut aussi faire de la logique. On peut lui donner ce qu'on dit des arbres décisionnels, et si ceci est cela, alors cela. Donc, avec cet outil, avec les facultés de l'ordinateur de faire ce genre de choses, est-ce qu'on pourrait remplacer la machine mécanique de Hertz ? Et l'approche que l'on prend aujourd'hui, beaucoup, et surtout l'approche que l'on prend dans ma discipline, est de dire oui, on peut. Alors, on peut parce que, je vous ai dit souvent, on peut poser des équations. Ça, c'est quelque chose qui, pour des gens qui ne font pas ça tous les jours, est un peu difficile. Il est très facile de poser une équation. Je peux vous poser l'équation de Schrödinger, dont j'ai parlé précédemment, pour une molécule en 2 minutes au tableau. Aucun problème. Personne ne peut résoudre cette équation. Personne ne peut donner de solution exacte à cette équation. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaissait déjà de la mécanique classique. Hertz ne le savait pas. Mais aux alentours de 1900, le mathématicien Henri Poincaré a montré que certaines équations mécanique toute simple, par exemple le problème Soleil, Terre, Lune, n'ont pas de solution exacte. Pas parce que les mathématiciens sont trop nuls pour la trouver, mais parce que cette solution n'existe pas. Elle n'existe tout simplement pas. Il est démontrable qu'elle n'existe pas. C'est difficile à comprendre, mais croyez Poincaré. Bon, alors un programme, c'est quoi ? Vous voyez, on écrit ça... C'est quelque chose d'extrêmement formel. On dit que c'est un langage. C'est un langage, pire que le latin, l'allemand, le russe, ce que vous voulez. C'est extrêmement pinailleur. Si par exemple ici je mets un point virgule au lieu de mettre une virgule, ça marchera pas, etc., etc. Mais on sait faire. Et ceci exprime une suite d'opérations. Hein, tu fais cela, tu vas récupérer à l'extérieur du programme, c'est-à-dire en général sur un clavier où quelqu'un tape trois données, tu les additionnes, tu les élèves à la puissance, etc., etc. C'est un exemple d'un petit programme qu'on a fait faire aux étudiants. Bon, alors ce programme, il contient 30 lignes de code, 30 instructions. Un programme réel qui fait... le programme ici qui fait que je peux appuyer sur les boutons et que ça va défiler, etc., il contient quelques milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de lignes de code. Donc un vrai programme informatique est une chose d'une complexité incroyable. Ils sont même en général tellement complexes que ces programmes que leur comportement en toute situation n'est pas prévisible. C'est pour ça que votre ordinateur se plante de temps en temps. Mais néanmoins, l'idée de base, on remplace, on dit qu'on a compris une observation scientifique, on a compris une expérience scientifique, quand on peut écrire un programme dont le comportement est analogue, c'est une voie qui s'est ouverte il y a 50 ans et qu'à l'heure actuelle, tout le monde suit et que nous allons suivre aussi et nous allons en voir les dangers, ou peut-être pas les dangers, je suis peut-être trop négatif en disant les dangers, enfin tout au moins les conséquences. Hein? Donc, la stipulation d'Hertz, comprendre c'est construire la machine, je la remplace par la stipulation, comprendre c'est concevoir le code, ou peut-être, si on n'est pas capable de l'écrire soi-même, c'est-à-dire de connaître les règles d'écriture, tout au moins être capable de le comprendre, hein, de dire... Là, ça fait ça, là, ça fait ça, là, ça fait ça, là, je prends telle donnée, je l'additionne, je la compare, etc. Alors, ça amène quoi comme conséquence? Imaginons que nous voulons faire le problème d'additionner le nombre infini 1, moins 1,5, plus 1 quart, moins 1 huitième, plus 1 seizième, moins 1 trente-deuxième, etc., etc. Hein, donc, la loi est facile, la 2, 4, 8, 16, 32, 63, etc., etc. Les mathématiciens, s'ils réfléchissent bien, et ils l'ont fait depuis longtemps, ils vous diront que le résultat est 2/3. Exact, avec une précision infinie. C'est 2/3, ni plus, ni moins, exactement 2/3. Vous, avec votre ordinateur, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous dites, je vais additionner, je peux très bien, sur mon ordinateur, écrire un programme qui fabrique 2, 4, 8, puis j'additionne. Et vous allez trouver que ça fait 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, et vous aurez une approximation numérique. Cette approximation, ça marchera toujours. Hein, vous pouvez toujours approximer avec toute la précision que vous voulez. Pas avec une précision infinie, mais si vous voulez 10 décimales, vous en aurez 10, si vous voulez 20, vous en aurez 20, si vous voulez 30, vous en aurez 30, aucun problème. Bien sûr, ici, ce que font les mathématiciens, là, le travail intelligent de calculer une fois pour toutes ces 2/3, ça marche dans des cas favorables. La méthode brute force, de dire tout simplement, je me fiche de savoir si c'est exactement 2/3, tout ce que je veux savoir, c'est, avec suffisamment de précision pour ceux qui m'intéressent, pardon, ça marche toujours. Hein? La loi ici, qui peut être n'importe quoi. Donc, vous passez par la force. La méthode brute force, c'est le passage par la force. Bon, on en vient ici vers un problème qui s'appelle la récursivité, dont je vous parlerai peut-être à la fin. Alors, cette approche par la force, ça amène quel mode de pensée? Ben, ça amène un mode de pensée que, pour l'utilisateur de base, que nous sommes tous devant l'ordinateur, et que les scientifiques deviennent de plus en plus aussi, il y a quelqu'un qui écrit ce programme, brute force, qui souvent vous le vend bien cher, et vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Ce que vous savez, c'est que pour un certain input, c'est-à-dire vous dites, vous voulez quelle est la suite de chiffres que vous voulez additionner, ça vous donnera un résultat. Vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Hein? L'approche boîte noire. Ici, quand je clique sur les boutons, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans l'ordinateur. Je ne connais pas la suite des instructions, etc. Tout ce que c'est si je clique, tac, ça passe à l'image suivante. Et donc, le danger, Eh bien, c'est que la science commence à... Enfin, le danger du point de vue de ce que l'on appelle traditionnellement faire de la science, c'est que de plus en plus, eh bien, la science, entre guillemets, se rétrécisse ou devienne, tout au moins, l'utilisation de telles boîtes noires. On achète des logiciels, pratiquement pour toutes les disciplines, vous pouvez acheter des logiciels maintenant. Vous préparez un input, clic, 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 sort un résultat. L'ordinateur a dit. Est-ce que vous avez fait de la science si vous faites ça? Ce que vous avez fait, c'est que pour des problèmes pratiques, vous avez obtenu ce que vous voulez. La structure d'une molécule, pas encore synthétisée, vous pouvez la calculer de cette façon. Vous pouvez calculer la solidité de votre voiture, elle est calculée comme ça, hein, savoir si elle, comment ça va se déformer si vous décidez de rentrer à 50 à l'heure dans un mur, ou si un mur décide à rentrer dans votre voiture à 50 à l'heure, c'est calculé comme ça. Donc cette approche boîte noire, elle est extrêmement efficace. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un outil. Enfin, on n'a pas compris ce qui se passe. Enfin, à mon sens, on n'a pas compris ce qui se passe. On n'a pas compris ce qu'on fait. Et c'est aussi un danger. Hein? Donc, dans une certaine mesure, vous faites l'utilisateur d'une telle boîte noire, l'utilisateur d'un tel logiciel, il fait une confiance aveugle à celui ou ceux ou celle qui a ou ont écrit le programme. Hein? C'est comme si vous prenez, pour prendre de nouveau l'analogie avec le livre, c'est comme si vous prenez absolument au pied de la lettre tout ce qui est écrit dans un livre. Quand vous avez des doutes sur ce qui est écrit dans un livre, vous allez voir, vous faites des recoupements, etc. Là, vous pouvez pas. Hein, vous avez entré vos données, sort quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pour les problèmes complexes, c'est la seule façon de faire. Hein. Si vous voulez calculer la résistance au vent d'un bâtiment ou la suspension d'une voiture, il n'y a pas le choix. Hein? Mais là, on s'est embarqué on a pris le virage là. Hein? On s'est embarqué dans une toute nouvelle façon de faire la science. Il y a 50 ans, vous ne pouviez pas faire ça. Hein? Il y a 50 ans, vous bataillez contre les équations, vous cherchiez à comprendre les choses, vous faisiez des approximations, vous regardez si vos approximations étaient bonnes, etc. Là, c'est quelque part, c'est automatique, vous ne le voyez pas, c'est occulté. Vous faites confiance. Donc, première conséquence sur la pensée scientifique de l'ordinateur. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Alors, le rasoir d'Occam, c'est quoi? Eh bien, c'est que la science a pratiquement comme paradigme que, et surtout les sciences dures, style physique, qu'une explication simple est intrinsèquement supérieure à une explication compliquée. Autrement dit, il ne faut pas utiliser plus d'hypothèses que strictement nécessaire. Ça sert à rien d'accumuler des raisons. Une fois qu'on a une raison pour que quelque chose soit comme ça, ça suffit. Hein, Einstein l'a dit de sa façon, comment dire, extrêmement deadpan. Tout doit être rendu aussi simple que possible, mais pas plus. Mais pas plus, ça veut dire il y a des explications qui sont pas bonnes aussi. Hein. Ça veut pas dire qu'une explication simple est bonne, mais une bonne explication est simple. Alors, ce qu'on fait sur l'ordinateur, très souvent, ça ne correspond pas à ce rasoir d'Occam. Ça a été une des premières critiques qui ont été élevées contre mon domaine particulier de travail, dont je vais parler dans un instant, qui est que très souvent, dans ces logiciels, vous n'allez pas directement des données que vous entrez, c'est-à-dire souvent le stimulus du système, à la réponse, mais vous passez par une étape intermédiaire qui, elle, contient une énorme quantité de données que vous ne contrôlez pas. C'est vrai pour la chimie quantique, c'est vrai pour la thermodynamique, c'est vrai pour beaucoup de domaines. La philosophie, c'est que vous avez une partie du programme qui crée des données, énorme quantité de données, vraiment énormes, des méga ou gigabytes de données. Et puis quelque part, vous prenez des méthodes statistiques qu'on appelle des filtres, et vous les regardez. Ce n'est pas certainement pas ce que dit Occam. Hein. Occam, il dit, vous n'avez aucune raison de créer, à partir, mettons, vous avez 20 données indépendantes là, vous en créez 1000 millions entre, vous en ressortez 10 ou 20. Quelque part, ça ne correspond pas du tout à ce credo classique des sciences. Mais ce qu'il y a, et j'en parlerai brièvement aussi, c'est que les méthodes graphiques interviennent à ce niveau et les gens commencent à regarder directement ce nuage, à regarder, je dis bien à regarder avec les yeux, image, donc niveau bas, pas le niveau haut de l'abstraction, hein, regarder directement ces images. Alors là, je vais vous parler d'un petit exemple qui vient plus de mon domaine de travail et qui vous montrera surtout quelles sont les limitations, parce que là on va toucher aussi aux limitations. Donc il y a ce monsieur qui s'appelle Ludwig Boltzmann qui a inventé ce qu'on appelle la thermodynamique statistique ou la physique statistique ou la mécanique statistique, qui est grosso modo, et c'est là qu'on voit que Boltzmann était vraiment un génie, parce qu'il a conçu quelque chose qui était absolument irréalisable à son époque et qu'aujourd'hui, avec l'ordinateur, on simule, on imite, qui est de dire, eh bien, comment peut-on lier le comportement des composantes de la matière, mettons des atomes et molécules, avec le comportement macroscopique que nous observons. Pourquoi le bois est-il dur? Pourquoi l'eau est-elle liquide? Qu'est-ce que ça a à voir avec les molécules qui forment ces matériaux? Donc, là, je fais grosso modo ce que j'ai dit ici, hein, donc je regarde ce nuage d'informations intermédiaires, là, avec un outil graphique, et je dis, j'ai deux molécules d'eau. Bon, deux molécules d'eau, c'est pas trop grand, on imagine ce que c'est bien sûr infiniment petit, hein, les dimensions de là à là, c'est quelques 10 moins 10 mètres, donc ça fait quoi, 1/1000 de milliardième de main, enfin quelque chose. 10 moins 10, hein, petit, petit, petit. Et bon, avec l'ordinateur, je peux en prendre plusieurs. Et déjà là, donc ça, c'est ce qu'on appelle une simulation de l'eau liquide. Là, vous voyez que je peux facilement vous tromper, parce que là, vous avez l'impression que l'eau liquide, c'est quelques molécules et puis beaucoup de place entre. Si je prends cette représentation, vous dites, ah non, l'eau liquide, c'est vachement dense. Enfin, il n'y a pas de place. Tout se touche. Enfin, comment se fait-il que ça soit liquide vu que toutes les molécules sont bloquées les unes contre les autres? Ce qui vous prouve bien que ce niveau vision sert peut-être utile, mais... Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on regarde ces molécules. Hein, donc là, j'étais ici, je regardais les molécules. Maintenant, je vais chercher à calculer des choses. Et ce qu'on peut calculer avec ces approches, et c'est ça qui va nous amener immédiatement aux limitations de la méthode, ces molécules, elles vont bouger. Hein, la matière, c'est pas quelque chose de figé, ça bouge à l'intérieur. Hein, on parle du mouvement brownien, par exemple. Et donc, avec mon ordinateur, je vais pouvoir retracer le mouvement des molécules. Je peux suivre le mouvement, vous les voyez bouger, ça bouge, puis ça se réunit, et puis ça s'éloigne, etc., etc. Alors, pendant combien de temps pouvez-vous observer ce mouvement? Eh bien, pendant un temps extrêmement court, pendant un temps qu'on appelle nanosecondes, 10⁻⁹ secondes. C'est-à-dire, il faudrait, si vous vouliez observer vos molécules pendant une seconde, il faudrait que votre ordinateur calcule, eh bien, 10 à la 9e puissance fois plus longtemps. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. Bon, néanmoins, si c'était sans espoir, on ne le ferait pas. Bien sûr que c'est pas sans espoir, parce qu'il y a un tas de phénomènes dans la nature qui sont à cette échelle de temps. Hein? Par exemple, la diffusion des rayons X, c'est à cette échelle de temps. Hein? Les rayons X, ils passent très vite et vous êtes à la bonne échelle du temps. Des réactions chimiques peuvent tout à fait avoir lieu à cette échelle de temps. Le mouvement des atomes eux-mêmes, ce que vous sondez par spectroscopie, etc., c'est à cette échelle de temps. Donc, même avec cette limitation que nous allons étudier un petit peu, vous faites du travail qui semble utile scientifiquement. Hein. Vous pouvez aller voir votre collègue qui fait de la diffusion des neutrons et lui dire, bon voilà, d'après mes calculs, tu devrais observer ceci, cela. Donc, dans une certaine mesure, on a quand même compris, hein. Si je peux prévoir, si je peux aller lui dire, écoute, si tu fais telle et telle expérience dans telle et telle condition, je te prédis tel et tel résultat, c'est déjà quelque chose. Mais les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Donc on a vu que le temps de calcul, enfin le temps que je pouvais étudier le système était très court. Si maintenant je dis, ben je voudrais étudier le système plus longtemps, je vous l'ai dit, ben il faudrait multiplier le tout par un facteur 10 à la 9e puissance. Ce qui nous amène à quelques millions d'années, dizaines ou centaines de millions d'années en fonction de votre ordinateur. C'est-à-dire que si vous vouliez étudier ce qu'on appelle la trajectoire, c'est-à-dire le mouvement de quelques centaines de molécules d'eau, pendant une seconde réelle, votre ordinateur, il aurait fallu le lancer à l'âge des dinosaures. Donc vous voyez que un facteur 19, c'est énorme. Hein. Rappelez-vous, le gain de vitesse que nous avons observé depuis le début de l'ordinateur jusqu'à aujourd'hui, c'est 10 à la 4, 10 peut-être à la 5e puissance. Hein, donc 10 000 ou 100 000. Là, on est à dizaines ou centaines de millions. Donc, on n'a pas beaucoup de chance d'atteindre ça. Hein. Aucun ordinateur, je pense, jamais n'atteindra une vitesse de calcul, même si le progrès continue comme il a eu lieu jusqu'à maintenant, ce qui n'est pas probable non plus, on n'y arrivera pas. Donc, hein, le nombre d'opérations que peut faire un ordinateur reste toujours petit par rapport aux ordres de grandeur que nous observons dans la nature, comme le nombre de molécules qu'il peut y avoir dans un échantillon, comme, je dirais, le nombre de mouvements qu'ils peuvent effectuer dans un temps qui nous semble court comme une seconde. Alors, il y a un autre exemple qui est encore pire, je vais le sauter, alors qui vous dit que là, si vous voulez faire le calcul... Donc, allons-y brièvement, si au lieu de prendre 5000 molécules, vous voulez prendre 1 cm cube d'eau, c'est pas énorme, eh bien, il faudrait que votre ordinateur, il ait commencé bien avant le Big Bang. Hein? Quelques milliards d'âges de l'univers. Donc là, vous êtes absolument sûr qu'aucun ordinateur jamais n'y arrivera. Bon, je vous ai déjà parlé de la graphique, et on en revient un peu à ça. Donc les méthodes graphiques sont importantes, elles interviennent de plus en plus, et à mon avis, elles leurrent aussi les gens de plus en plus. Ce que mon collègue Imre Roof avait entrevu déjà il y a 30 ans, quand au cours d'une discussion autour d'une tasse de café au Max Planck Institute à Mayence, justement, il nous avait dit, en dernière analyse, est-ce que celui qui pourra produire la meilleure graphique aura la meilleure science? Parce que c'est vrai que la graphique, ça parle. Hein? Bon, a picture is worth a thousand words. Hein? Une image vaut... Donc, à quel niveau voulons-nous situer la science? Le niveau, hein? Par niveau, j'entends ce que je disais là, d'après l'exposé... Où est-ce qu'il est? Là. D'après l'exposé de Patrice Cambronne, la science se voyait jusqu'à maintenant beaucoup à ce niveau abstraction. On voit que l'ordinateur a beaucoup tendance à favoriser le niveau descriptif. Alors, est-ce bon, est-ce pas bon? Je ne dis pas. Hein? J'attire votre attention tout simplement que le paradigme sur lequel nous avions basé notre pensée scientifique, pour des raisons pratiques, parce que l'ordinateur a du succès, parce que l'ordinateur peut calculer pratiquement tous les cas particuliers que vous voulez, il risque d'en être ébranlé. Je suis convaincu qu'il en sera ébranlé. Bon, donc, résumons un peu. Les livres ont rendu le stockage de l'information facile et bon marché. L'ordinateur rend de beaucoup d'ordres de grandeur de plus, le stockage, l'obtention et la manipulation de l'information, hein, c'est ça la différence. Si quand vous avez un livre, vous n'avez plus besoin d'apprendre par cœur, hein, et la transmission de la connaissance avant l'impression était quand même beaucoup orale, faire des études avant Gutenberg au Moyen-Âge, c'était mémoriser ce que le professeur en haut de sa chaire, comme on les voit dans les enluminures gothiques, assénait aux étudiants. Bon, je dis toujours qu'en France, l'enseignement, c'est toujours comme ça, mais bon. Moi, j'ai tendance à dire à mes étudiants, n'apprenez pas par cœur, apprenez où il faut où trouver. Et maintenant, mes étudiants, quand je leur dis, ben, faites le calcul, ils me disent, mais non, pas la peine, c'est l'ordinateur qui fait le calcul. Pourquoi tu me fais chier à faire ces intégrales? Aucun besoin. Appuie sur le bouton. Et oui. Mais peut-être que ce n'est qu'une étape de plus. Hein. L'étudiant m'a dit, il suffit de savoir cliquer. Et ceci après 50 ans. Même pas 50 ans. Hein. 25 ans grand public, 50 ans dès tout début. Et donc, je me résume, hein, je pense que je vous ai montré que si le livre a amené un changement fondamental de paradigme pour la science, l'ordinateur en amènera très probablement un changement encore beaucoup plus grand. Et ceci après même pas 50 ans. Alors, quelles seront les conséquences vraiment? Ça, c'est difficile à dire, et là, je quitte un peu le domaine de la science. Je reviendrai sur le point suivant. Est-ce qu'on peut être innovatif ou créatif sans comprendre, au sens traditionnel du terme que j'ai essayé de vous expliquer? Est-ce qu'on peut faire de la science sans avoir compris, sans avoir cherché à extraire des lois, je reviendrai sur cette notion de loi, des lois générales? Est-ce qu'une collection de cas particuliers peut prétendre à l'appellation de science? Alors, peut-être que oui, hein, peut-être qu'il est tout à fait utile et désirable d'éviter cette étape de compréhension. On va pas pinailler, disent les gens. Who can does, who can't teaches. Hein. L'enseignement, c'est pour ceux qui savent pas faire et qui pinaillent sur les machins et qui se retranchent derrière les théories. Hein. Et puis on se fout d'Occam, comme hein, le vieux moine qui nous dit qu'il faut pas invoquer. Et puis on invoque, et puis alors... Avant l'ordinateur, on ne pouvait pas. Il fallait simplifier du fait de la limitation de nos capacités à manipuler les choses. D'avoir un mégabyte de données à traiter, c'était impossible. Moi, je me rappelle, mon prof de maths me racontait que quand il était jeune, les étudiants faisaient de l'argent pour les cabinets d'ingénierie. Il avait calculé le hall de la gare de Munich. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait 25 étudiants en physique, on leur donnait des calculettes, et puis ils moulinaient, ils comparaient, et puis à la fin, on disait, bon, allez, on a compris la statique, ça va pas tomber sur la tête des gens, c'est pas tombé sur la tête des gens. Mais c'était limité. À l'heure actuelle, on pousse sur le bouton, tac, un méga de données, 30 millisecondes, et puis c'est fait, tac. Alors, il y a des gens qui disent, en fait, le moteur de la science, c'est pas les mathématiques, c'est l'intuition. L'intuition précède-t-elle la déduction, oui ou non? Vaste débat. Paul Dirac vous dirait que non, l'intuition c'est nul et uniquement ce qu'il a dérivé mathématiquement, bon, il a découvert ou inventé pas mal de choses qui... Au point de vue sociologie, est-ce qu'on va vers une société où on aura une grande classe d'utilisateurs qui n'auront rien compris, qui cliqueront, clic, qui feront du travail utile, qui calculeront les choses utiles, les voitures de chemin de fer et tout ce que vous voulez, et une classe de mandarins, de sages, et je dis mandarins sages, qui seront ceux qui écrivent les programmes? Ou bien alors, au contraire, est-ce que la classe de ceux qui écrivent les programmes sera une sous-classe d'esclaves? Ceux qui sont dans les soutes. Et je ne sais pas, ça, en France, on n'a pas vraiment remarqué, mais il y a 3-4 ans, il y a eu une grande grève des ingénieurs de Boeing. Et le but de la grève des ingénieurs de Boeing, c'était pas « on veut être mieux payé », c'était « on en a marre que les MBAs, donc les businessmen divers et variés, nous fassent chier. Parce que finalement, les avions, ils volent parce que nous, on sait comment on fait qu'ils volent. Ils n'ont pas gagné. On leur a dit, vous, ingénieurs, vous êtes interchangeables. On trouvera toujours un autre imbécile qui sait faire voler un avion. Pas de problème. Donc, si vraiment il y a une classe de ceux qui savent et une classe de ceux qui utilisent, je ne suis pas convaincu que, même si j'aimerais l'être, que la classe de ceux qui savent sera un mandarinat au sens noble du terme, comme la Chine classique l'a conçu. J'ai marqué ici Glasperlenspiele, d'après le roman qui est vraiment prémonitoire de Hermann Hesse, il l'a écrit dans les années 30 ou 40, le joueur de perles de verre, où justement il entrevoit une société où il y a la classe de ceux qui savent, qui jouent ce jeu des perles de verre. Et on a dit que c'était le premier livre sur l'intelligence artificielle. C'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais il y a une réflexion prémonitoire là-dedans. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je voudrais en venir un peu, comme je vous l'ai dit au début, au parallèle que je vois avec la façon dont la Chine a pensé la science. Et là, je me réfère aux travaux de Joseph Needham, qui était à l'origine biochimiste, et qui, aux alentours des années 50, s'est posé la question, qu'on appelle la question de Needham. Qu'est-ce qui fait que la Chine, qui était extrêmement en avance sur l'Occident jusque vers 1500, 1600, ait été dépassée? Et que la Chine était en avance sur l'Occident, il y a un grand nombre de critères que Needham énumère, la précision avec laquelle on savait mesurer le temps, les Chinois mesuraient bien mieux que nous. Vous pouvez prendre la quantité de fonte produite. Je crois que sous les Song, c'est-à-dire vers 1050, la Chine produisait plus de fonte que l'Angleterre, mettons, au début de la révolution industrielle, donc un peu avant 1800. La construction des bateaux, l'agriculture, enfin, vous pensez ce que vous voulez, la Chine était en avance. Et en fait, la Chine a continué à progresser son petit train-train, c'est ce que j'ai cherché à symboliser ici. Mais l'Europe qui était en retard, tout d'un coup, a accéléré. Et Needham s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi l'Europe a-t-elle accéléré? Alors, il y a une bibliothèque comme ça que je n'ai pas lue, je suis un peu enfant de mon temps, donc j'ai lu des précis internet, des condensés. Et il y en a un très bon dans la collection Que sais-je ou Presse universitaire de France, j'en sais rien, que malheureusement j'ai prêté, et puis je l'ai prêté. Donc je ne peux pas vous le montrer, mais je le recommande vivement. J'ai mis quelques références à la fin de l'exposé. Et en fait, Needham dit, eh bien, le fait que l'Europe ait décollé comme ça, c'est que l'Europe avait cette notion que... une compréhension abstraite était intrinsèquement supérieure à une compréhension intuitive. Et cette notion était nourrie de la notion de loi, qui peut être la loi divine, mais aussi la loi romaine, ou latine, mettons romaine, et que cette loi, l'homme pouvait la découvrir. L'homme pouvait savoir la loi. Il n'était pas restreint à la subir, il pouvait la découvrir. Alors on dit, oui, les Chinois ont beaucoup parlé du Tao. Alors d'après ce que j'ai lu, mais nous aurons un exposé, je pense, sur la pensée chinoise un peu plus loin dans cette série. Le Tao, c'est pas vraiment la loi, c'est quelque chose d'intuitif, c'est l'esprit, l'essence, mais pas quelque chose de clair, délimité. Le Tao n'est pas délimité, c'est continu, c'est flou. Donc, d'après Needham, l'Europe a décollé quand elle a réalisé que cette notion de loi abstraite, formulable, identifiable, pouvait être atteinte par l'homme, que l'homme avait accès à ça. Je pense, donc je suis, et donc je découvre la loi. Et, très important aussi, je pense, c'est que l'Europe a très vite distingué science en tant que quelque chose de pas axé vers un but immédiat, quelque chose qui est une valeur en soi, et application. Même si, très souvent, on ne peut pas couper clairement. Mais au moins, les deux extrêmes sont bien définis. Et ces notions ont prévalu, soyons modestes, parce que se sont révélées efficaces. C'est sur ces notions qu'a été bâti l'édifice que nous appelons les sciences modernes. La physique, les lois de la mécanique, les lois de l'électrique, la mécanique quantique, etc. Le fait que je peux classifier tout ça, mettre dans des boîtes, ça procède de cet esprit. Bon, alors, Eh bien, ces notions, d'abord, resteraient-on efficaces? Les transparences sont coupées d'une façon un peu curieuse. Donc, je réponds à la question, elles ont été efficaces, le resteront-elles? Dans quelle mesure? On a vu que l'approche intuitive, que l'approche boîte noire était efficace, extrêmement efficace. Donc, l'argument d'efficacité pour l'approche qu'on dit réductionniste, donc de ramener les choses à des lois, elle n'est peut-être plus démontrée à l'heure actuelle. Peut-être que l'approche qui viole le principe d'Occam, etc., est plus efficace. Pour des problèmes pratiques, je suppose qu'elle l'est. Ouais, donc si elle est plus efficace, eh bien, l'Europe a perdu ce qu'on appelle en économie l'avantage comparatif. Donc peut-être que l'approche chinoise aux sciences, de dire je ne me soucie pas de reconnaître la loi, je traite aussi bien que je peux le cas particulier, peut-être va-t-elle prévaloir. En fait, je suis à peu près convaincu qu'elle va prévaloir. Pas tout de suite, pas demain, mais à la longue. Bon, j'en ai à peu près terminé, donc je vous donne les quelques références que j'ai. Ce que je vous ai dit sur Gutenberg, c'est tiré d'un livre de Guy Bechtel, qui est paru en 92, qui a le meilleur résumé à l'heure actuelle de ce que l'on sait sur Gutenberg. Pourquoi j'insiste sur Gutenberg? Parce que je suis de Mayence, donc il faut bien que... Das Glasperlenspiel, donc ce roman de Hermann Hesse. Un livre que je vous... Voilà donc Bechtel. Un livre que je ne saurais trop vous recommander si vous voulez réfléchir un peu plus profondément sur l'ordinateur, ses conséquences, ses modes de pensée. C'est ce livre qui a une trentaine d'années aussi. Essayez de le lire en anglais. C'est un livre extrêmement profond, mais aussi extrêmement bien écrit et pratiquement intraduisible. Même si on dit que la traduction française est vraiment aussi bonne que l'on peut l'espérer, Gödel, Escher, Bach, An Eternal Golden Braid. Un plaisir à lire et à relire pour tous ceux qui veulent réfléchir sur l'ordinateur, la machine de Turing, les mathématiques qui se cachent derrière le théorème d'incomplétude de Gödel, etc., etc. Et puis tiens, ben voilà le livre sur les sciences chinoises, le petit précis, que je ne retrouve pas. Bien sûr, je vous l'ai dit, on se procure l'information où? Sur Internet, Wikipédia, Google, Léo et compagnie. Bon, vous savez qu'on a fait des tests, Wikipédia est plus fiable que l'Encyclopédie britannique. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention, je remercie Jean-Marie de m'avoir permis de vous parler de quelque chose qui quand même me tient un peu à cœur, et je suis prêt pour vos questions.